Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Retour sur la crise des missiles de Cuba. Et si on était passé encore plus près de l'apocalypse nucléaire qu'on le pensait ? Par deux fois, le feu atomique a failli être déclenché, presque par hasard.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter, la voix est libre.
Et sur France Inter, Daniel Mermet, tout de suite, et là-bas, si j'y suis.
Salut Daniel, salut Routier, bon courage à tous. Salut, c'était Pascal de Normandie.
Ouais, salut Daniel et toute ton équipe, juste pour réagir par rapport à l'émission d'hier, le conducteur routier là. Donc ben, moi aussi j'avais fait ça initialement par vocation, tu vois, et puis j'ai été obligé de changer un peu. Et voilà, maintenant 10 ans par contre que je me suis mis à mon compte en tant qu'artisan transporteur routier. Puis tous les ans en fait, on nous en rajoute tellement sur la tête que déjà je vais finir par mettre la clé sous la porte. Et juste un correctif au sujet de la vie de... Le conducteur routier et de celle de marin, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que même si les marins, quelquefois, sont dans la galère un peu comme nous, ils ont le mérite de travailler en équipe. Voilà, et c'est pas du tout le même rendu au niveau psychologique. Là, le conducteur routier est complètement désocialisé.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG et surtout mes amitiés à ton équipe, Daniel, qui nous fait du bon boulot tous les jours, qui nous fait du bien. Voilà, puis un salut particulier évidemment à tous mes collègues routiers. Voilà, j'appelais pour réagir à l'émission d'hier et dire merci à Philippe qui nous a fait assez bien comprendre, j'espère, aux auditeurs qui ne sont pas routiers, le problème du dumping social, évidemment. J'aurais bien aimé aussi qu'il parle des patrons français qui abusent aussi de la société, de l'atmosphère de précarité qu'il y a dans notre société actuellement pour faire n'importe quoi aux jeunes qui viennent et qui disent oui à tout parce qu'ils veulent garder leur boulot, voilà, tout simplement.
Oui, salut, c'est Bernard Dognon. Vous parlez de l'Entresangle, effectivement, oui, c'est sans doute le plus gros transporteur français, donc effectivement, voilà. Mais il y a d'autres transporteurs. Là, il y en a un, la Transport Baumex, du 49, près d'Anceny, pas loin de Nantes. Ils ont racheté récemment une autre société pour un euro symbolique. Ils sont maintenant, je crois, à 950 chauffeurs ou quelque chose comme ça, ce qui est quand même pas rien. Alors, ils ont trouvé une petite combine, ils ont embauché une soixantaine de chauffeurs bulgares, qui circulent dans des camions immatriculés en France, et donc moi je m'étonnais auprès d'autres chauffeurs de chez eux parce que je pensais que c'était illégal. En théorie, si le camion était immatriculé en France et que le chauffeur est bulgare, doit être payé comme un Français. Ils louent leur camion, paraît-il, à une société de transport bulgare qui, voilà, donc en fait, je ne sais pas si c'est bien légal, je ne sais pas s'il y a un tour de passe-passe où nous autres pauvres chauffeurs sommes traités comme de la merde. Enfin, voilà, auto-horaire, on est smicard, hein. On arrive à faire des salaires à peu près décents quand on fait des heures. Enfin, voilà, quand tu fais 1700 euros parce que tu as fait 210 heures ou. Voire 220 payer 210, ce qui est souvent le cas, enfin voilà. Aucune boîte paye les chauffeurs pareil, enfin bref. Merci en tout cas de vous intéresser à nous, et on se sent un petit peu moins seul.
Bonjour, je suis Geoffroy, syndicaliste et inspecteur de la Fédération internationale des ouvriers du transport. Je voudrais réagir par rapport à l'émission d'hier. Je voudrais juste assurer aux routiers français, mais aussi européens, qu'ils ne sont pas seuls. Et que le seul moyen aujourd'hui de se défendre, de se protéger et de s'unir, il faut se fédérer. Il est nécessaire de se fédérer et surtout de ne pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'autre, hein, l'ennemi, on sait de qui il s'agit. On peut transformer cette Europe, on peut transformer notre lutte. Vous avez un pouvoir, personne ne peut vous menacer de vous retirer quelque permis que ce soit si vous luttez pour vos droits. Et ne vous trompez pas d'ennemis.
Salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux là. Ouais, je t'appelle, là, je suis en train de fendre mon bois ce matin, tu vois, par moins 2, moins 3 là, avec un pauvre Merlin de merde. Et puis j'étais en train de réfléchir aux mesures là, du gouvernement socialiste là, sur la pauvreté là, tu vois. Hein, l'augmentation du RSA là, sur 5 ans là, de 10%. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons, de son aumône, on n'en a pas besoin. Qu'ils donnent carrément à Parizeau, parce qu'ils ont donné pas mal de milliards depuis le mois de mai qu'ils sont arrivés, qu'ils les donnent à Parizeau, qu'ils les donnent à PSA, qu'ils les donnent à ArcelorMittal, qu'ils les donnent à qui ils veulent, mais nous, on n'en a pas besoin, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Hein.
Prenez une feuille et un stylo, interro surprise. Question numéro 1. À quoi sert l'argent? Petit A, à faire plus d'argent. Petit B, à tirer les ficelles du pouvoir. Petit C, à être au-dessus des lois, et comme ça, on peut tout se permettre. Question numéro 2. À quoi servent les politiques? Petit A, se servent eux-mêmes. Petit B, servent la soupe aux grands argentiers. Petit C, nous servent des salades pour qu'on se tienne tranquille. Question subsidiaire. Qu'est-ce qu'on attend pour se rebiffer? Petit A, les prochaines élections. Petit B, le prochain solstice. Petit C, la prochaine promesse non tenue. Et alors là, ça va pas traîner. Vous avez un quart d'heure. Je vous rendrai les copies corrigées dès le premier jour de grève générale. C'était Christine du Limousin.
Merci Christine du Limousin et merci tous les autres d'un peu partout, parce que c'est beaucoup les chauffeurs routiers qui ont réagi aux émissions précédentes sur, eh ben, sur le boulot des chauffeurs routiers français en voie de disparition. Merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question. C'est combien? Ça, ça irait bien avec Christine du Limousin. 2000, 2005, 3000 par jour. Combien? 2000, 2005, 3000? On parle des chômeurs, là. Hein. Nouveaux chômeurs, monsieur le Président. Combien de nouveaux chômeurs aujourd'hui, ce 13 décembre 2012, le lendemain du 12-12-12, combien de chômeurs dans la journée? C'est la question qu'on peut se poser, mais c'est la question qu'on se pose plus. Bon, voilà, résignation, on se couche, on fait le gros dos, on attend la suite, des jours meilleurs. On ne sait pas trop ce qu'on attend, c'est pas très bien. Ça, c'est une certaine vision des choses, la vision de nos éditorialistes bien au chaud derrière leurs écrans, pour qui ce n'est qu'un mauvais moment à passer. C'est la destruction créatrice qu'est l'économie. L'économie, c'est une destruction créatrice. Bande de nuls, bande de géniards. Avec votre nostalgie géniarde, j'emploie les mots d'un certain Christophe Barbier dans l'Express. La nostalgie géniarde. Et bien, on va consacrer cette heure à la nostalgie géniarde. Et on va dédier cette heure à M. Christophe Barbier. Et à tous ceux qui fustigent ce qu'il appelle la Zolatitude. Un bel exemple de racisme de classe. Si c'était un délit, il faudrait poursuivre M. Christophe Barbier pour cet éditorial. C'est un cas de racisme de classe que ce papier. Nostalgie géniarde aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. Monsieur le Président, combien de nouveaux chômeurs aujourd'hui? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés. Dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, on va aujourd'hui retrouver, vous vous souvenez sans doute d'elle, de ces ouvrières de Samsonite. Vous vous souvenez l'histoire de Samsonite? Elles se sont fait virer, puis la boîte a été reprise par des escrocs. Là, elles se sont retrouvées complètement au tapis. Mais elles se sont accrochées, les petites femmes à la Zola. Elles se sont accrochées, elles se sont battues, et elles avaient même laissé un message, un beau jour, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, pour dire qu'elles partaient aux États-Unis, qu'elles avaient un peu besoin de soutien. Elles vont parler de ce soutien. Ça a très très bien marché, vous avez été très efficace et très généreux, si bien qu'elles ont pu aller aux États-Unis. Et pourquoi elles sont allées aux États-Unis? Et bien pour lutter contre le monstre, contre le dragon, le grand dragon qui s'appelle Bain Capital. Ouais, elles y sont allées, là-bas. Toutes petites femmes, toutes petites ouvrières du nord de la France, d'Avion, un patelin qui s'appelle Avion, à côté des Nains Beaumont, elles sont allées là-bas pour poursuivre le monstre Bain Capital, ce fonds d'investissement. Parce qu'elles se sont aperçues, avec leur avocat, que c'était de là que venaient les ordres, c'est de là que venaient leur désastre, leur marasme et leur misère et leur malheur. Elles se sont battues. Il n'y a pas que des gens qui se couchent et qui sont résignés et qu'on peut insulter en parlant de nostalgie géniale. Il y a aussi des gens qui se battent dans ce pays et qui résistent, et elles en sont un exemple. Encore quelques messages donc, et ensuite on part avec elles.
Une question d'actualité. Quand est-ce qu'on va faire la retenue à la source pour que tous les gens qui partent à l'étranger payent leurs impôts normalement et rendent ce qu'ils ont reçu de la France et des Français? Je crois qu'il est impératif de mettre ça en place très rapidement. La retenue à la source, point barre, c'est la solution à tous ces problèmes.
Oui, bonjour, je suis Erwan de la CGT Éducation Alsace. Je suis aujourd'hui avec des camarades devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Nous sommes ici pour soutenir deux camarades, Dominique Hackette et Fabienne Touche, qui sont attaqués pour leur action syndicale. Ils sont délégués CGT au collège du Stockfeld à Strasbourg et ils sont attaqués par leur chef d'établissement pour diffamation. Une fois de plus, on voit que le rectorat, quel que soit le gouvernement, s'attaque aux délégués CGT dans leur action de défense des salariés et des usagers du service public et l'éducation nationale. Visiblement, le changement, c'est pas pour maintenant.
Je suis le directeur du théâtre du Bourgneuf à Avignon et on a des grosses emmerdes. Voilà, donc je fais appel à vous pour voir si vous pouvez transmettre ce message pour signer cette pétition qui nous permettrait de continuer à subsister. À Avignon, il se passe des choses aussi. On a des problèmes avec des financiers, on est victime d'une OPA, donc le théâtre disparaîtra certainement, peut-être, je ne sais pas, on verra. La justice va suivre son cours, mais en tout cas, en attendant, on a besoin de votre soutien. Venez signer la pétition www.bourgneuf.com. Merci, merci. On est vraiment très ennuyés, on est dans la merde, quoi.
Le dernier puits de mine a fermé à Ouani, dans le Pas-de-Calais, là. Depuis ce temps-là, on n'extrait plus de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il n'y a pas une famille dans le Pas-de-Calais qui n'a pas un aïeul ou un ascendant qui n'a pas été mineur, quoi.
Les femmes travaillaient aussi hein, au fond de la mine. Hein. Elles triaient le charbon et tout. Hein.
Moi, ma mère, elle était lampiste. Lampiste, ça veut dire qu'elle mettait les lampes
pour qu'ils descendent. Voilà. L'heure avant de descendre au fond, bah, il changeait et puis il prenait sa lampe pour descendre.
Il y a même une chanson. Hein.
Ouais.
Lampiste. Ah oui. Une petite lampiste.
Quand elle va bien. Et Michu triste.
Oh oui.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Anaël Verzo. Monsieur le Président, combien de nouveaux chômeurs aujourd'hui ?
Flight number 2, arriving from New York.
On va où là alors que j'étais volée ?
À l'usine Samsonite.
C'est la guerre maintenant là-bas. Et on a l'impression qu'il y a eu la guerre.
Oh. Un énorme hangar,
tout noir,
brûlé par l'incendie.
C'est l'horreur. C'était propre et puis c'était bien entretenu parce que avant. Ah oui. Et on finissait notre poste, il fallait balayer notre coin. Ça me fait drôle de voir ça. Tellement je l'ai fait. Une poquette.
Donc c'est une espèce de pochette que vous mettiez dans le bacage, donc on l'accrochait. Et puis bah, les gens ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Hein, Et donc on voit bien, c'est bien écrit Samsonite, hein, c'est du Samsonite. Hein, regardez, on voit le logo. Ça c'est le logo Samsonite.
Ça ressemble à quoi le logo Samsonite ?
Ça ressemble à une fleur. Ça ressemble à une fleur. Mais bon, une fleur qui est devenue très triste.
J'ai élastiqué les poquettes. Après, j'ai assemblé les poquettes. J'ai fait. Bon, on faisait de tout. Hein.
Maintenant, ça ressemble à la guerre. À rien.
Il n'y a plus rien.
Donc, bon, je suis quand même pleine de frissons. Je suis pas bien. Hein. Je ne vais pas dire je suis pas bien là. J'ai envie de me sauver, là. Et ma trousse, elle est dans mon tiroir de cuisine, avec mes outils. Je l'ai, puis j'arriverai pas à m'en séparer. C'est dans mon tiroir. Et c'est quelque chose qui était précieux ici. Donc, même si, quelque part, ils nous ont fait souffrir, et c'est une chose qu'on a besoin de garder pour nous, personnellement, quoi. Donc là, quand on sort là, les camions arrivaient là, les portes s'ouvraient et là, ils mettaient les bagages terminés pour les envoyer
à Oudena.
À Oudena, tout partait à Oudena.
La guerre économique, la guerre sociale, ça ressemble à la guerre et ça ressemble à une défaite. Elles ont perdu. Ces gens-là ont perdu. C'est l'ultime agonie. Ces bruits de verre brisé, de bouts de ferraille, ces friches industrielles dans lesquelles on va errant. Avec une nostalgie géniarde, ça fait longtemps qu'on vous fait le coup. Voilà, c'est un monde fini. Il faut tourner la page. C'est vraiment fini ? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore, ou à nouveau, des résistances. Il faut faire très attention avec ces gens-là, monsieur Barbier. Il y en a qui résistent, il y a quelque chose qui coince parfois. Il y a des fois un noyau dur, aussi dur que leur tête. Faites très attention, très très attention avant d'insulter ce monde-là. Ils résistent. La résistance, c'est pas toujours ce qu'on en dit après. Ça commence, c'est une paupière qui bouge, c'est un tout petit geste, un clin d'œil, presque rien, deux, trois... Hommes qui partent sous la pluie d'une île bretonne, sans trop savoir où ils vont, s'ils ont des chances de l'emporter, mais ils partent parce qu'ils croient que c'est pas juste et qu'on peut gagner et qu'on peut sans doute ne pas rien faire. C'est impossible de rien faire parce que rien faire, c'est donner raison à l'autre, à l'ennemi, monsieur Barbier, à l'ennemi. Alors ces femmes-là, eh bien, elles ne se sont pas laissées faire. Elles se sont fait virer en 2005 du groupe Samsonite, qui les a vendues à un autre groupe, les repreneurs. C'est une vieille technique pour ne pas payer d'indemnité. On l'a vu souvent dans ce qu'on appelle odieusement des plans sociaux. Et ces repreneurs leur ont fait miroiter des emplois, mais les repreneurs ont bien vite mis l'entreprise en faillite et sont partis. Mais ils ont été rattrapés quand même actuellement. Ils sont en prison, ils ont juste détourné 2,5 millions d'euros qu'ils se sont mis dans la poche. S'ils ont été arrêtés, s'ils sont en prison, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est que ces petites femmes, les petites femmes de Samsonite, les petites ouvrières, se sont battues. Mais ça leur a pas suffi. Elles ont continué. Elles ont entamé donc une action au prud'homme pour obtenir des indemnités de licenciement plus importantes. Elles ont lancé une action devant le tribunal de grande instance qui a permis de faire annuler les contrats qui ont participé à la fraude que je viens d'évoquer. Et puis encore plus important, depuis leur petit patelin paumé dans le nord, sous ce grand, énorme ciel gris, et bien elles sont parties contre le monstre, contre le dragon. Bain Capital, le fonds d'investissement américain qui était l'actionnaire principal de Samsonite au moment des faits. Ils ne sont pas les seuls à se battre, à s'être battus, à continuer de se battre contre ce fonds d'investissement Bain Capital créé par Mitt Romney. Oui, le candidat malheureux, le candidat républicain malheureux. Beaucoup de travailleurs américains sont dans la même situation. Alors elles sont allées là-bas, aux États-Unis, pour déposer plainte devant le tribunal de Boston, Massachusetts. Et puis aussi pour rencontrer d'autres ouvriers, d'autres salariés américains dans la même situation qu'elles. Voilà, il y a de la résistance, il n'y a pas que des nostalgiques géniards. Et on n'est pas trop mécontents, nous, d'y avoir été pour quelque chose, un tout petit quelque chose. Mais en tous les cas, vous, les auditeurs, d'avoir envoyé très simplement et sans grand tapage quelques fonds pour aider à ce voyage, à cette résistance qui tient tout entière dans le mot suivant. Lutte.
Quand les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin? Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagouses, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois.
Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Qu'un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier.
Oui, mais...
Quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagouses, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Bonjour.
Monsieur Petit, je viens vous chercher.
Vous êtes le mari de...
Brigitte. Ouais, bah elle est occupée là, avec les enfants qu'on garde. Je sais pas si elle vous a expliqué. Elle garde des enfants de la DAS et c'est sa reconversion, quoi, en fait. Et tant qu'elle a été licenciée, ça va faire 5 ans. Voilà.
Elle continue à venir à l'usine chaque matin, comme avant.
France 3.
Leur entreprise est en liquidation judiciaire.
23 février 2007.
4 semaines que les ouvriers occupent les lieux et le temps comme ils peuvent.
8 heures comme ça, sans rien faire, c'est trop long. On n'est pas habitué, hein. On a tout le temps fait de la production.
Il y a 2 ans, cette usine a été vendue par Samsonite à un sous-traitant. Mais depuis, les commandes sont rares, les salaires ont mis beaucoup de temps à être payés. Toutes rêvent de reprendre le travail là où elles l'ont laissé. Dans ce Pas-de-Calais déjà sinistré, c'est une usine de plus qui risque de fermer.
Bonjour le chat.
Viens ici, viens ici.
Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Dors pas.
Je dors pas ces pirates là.
J'en ai pas. Brigitte, vous avez travaillé pendant plus de 24 ans dans l'entreprise Samsonite.
Oui.
À Hénin-Beaumont.
Oui, j'ai travaillé les 24 ans, la boîte a été ouverte 24 ans, j'ai travaillé 24 ans. Et bon, j'ai travaillé avant dans une autre entreprise, hein, où là j'avais été licenciée aussi. C'était un licenciement aussi un peu abusif, mais c'était rien par rapport à ce licenciement-là que je viens d'avoir avec Samsonite, quoi. Lorsque j'ai commencé chez Samsonite, donc ben, j'avais mon deuxième garçon, qui avait 6 mois.
Ça, c'était en quelle année?
En 84. Moi, pour moi, le travail chez Samsonite, c'était d'avoir une satisfaction au niveau de notre travail. Je crois que c'est pour ça que ça a été très difficile d'être licencié. Les fonds d'investissement ont demandé aux personnes qui s'occupaient de Samsonite pour nous en France d'aider les repreneurs, parce que c'est pas, ils n'ont pas vendu, ils ont aidé des repreneurs à normalement reprendre l'usine. Et effectivement, ils ont donné de l'argent à des repreneurs qui, eux, soi-disant, allaient nous faire du panneau solaire, mais qu'on n'a jamais vu. Et nous, l'entreprise a été liquidée, quoi. On a occupé l'usine à partir de ce jour-là, pour se battre, quoi, pour garder notre emploi, parce qu'on voulait garder notre emploi. On a occupé 4 à 5 mois. Que des mois d'hiver, ouais, les mois les plus durs. Ouais.
Vous avez déposé plusieurs plaintes. Une première plainte contre Samsonite, contre les nouveaux repreneurs, Energieplast. Une autre plainte contre le fonds de pension.
Pension aux États-Unis.
Bain Capital.
C'est les actionnaires de Samsonite. C'est eux qui prennent tous les gros bénéfices et puis qui licencient les gens. Dès qu'il y aura une date, on fonce là-bas.
Vous allez aller là-bas ?
Ah oui, on est en train de tout mettre en place pour partir aux États-Unis.
Là-bas, j'y suis, 10 octobre 2012.
Bonjour, je suis Brigitte Petit, présidente de l'association AC Samsonite, licenciée depuis 6 ans, en lutte contre les actionnaires qui nous ont licenciés pour faire encore plus de bénéfices, dont M. Mitronnet, fondateur de Ben Capital, le fonds d'investissement, responsable de nos licenciements. Nous partons ce vendredi aux États-Unis pour manifester avec des Américains également victimes du même fonds d'investissement et de Mitronnet. Nous partons également déposer notre plainte contre le fonds d'investissement Ben Capital. Pour partir, il nous manque encore 15 000 euros. Demandons votre aide. Merci beaucoup de vos dons qui seront les bienvenus.
Ça, il faut que je prenne. Il n'y a plus beaucoup de place. Je vais mettre là, ça.
Là, on est chez Brigitte qui prépare sa valise.
Là, tu crois qu'avec 15 ans, on
est pas ça. Moi, j'ai repassé, je
te vois là. Et ta maman ?
Elle est là, heureusement, pour m'aider pour les enfants, pour tout.
J'en donne à manger.
Aux enfants ?
Oh, ouais. Ça
bien que c'est mémé.
Comment ils vous appellent, les enfants ? Ils vous appellent mémé ?
Ah, mémé. Ah, oui. Tous. Hein. Mais mes arrière-petits-enfants, c'est mémé.
Vous avez des arrière-petits-enfants ?
Mon Dieu, je les compte pas. J'en ai une vingtaine.
Comment vous vous appelez ?
Monique.
Monique.
Oh oui, j'ai bien lutté j'ai pour tout le monde. Ah bon. Quand je suis arrivée sur Rouvroy, parce que moi j'habitais à Rouvroy, bon, mon mari était au Parti communiste, il faisait grève. À ce moment-là, c'est Liberté, on faisait.
Le journal ?
Le journal. Tous les dimanches, on allait vendre, on allait... Nous, on était au parti, il faut dire parti communiste, donc on avait des réunions, on avait des pour lutter pour tout ça. Hein. Ils ont bien fait grève, ils ont bien lutté, mon Dieu. C'est bien si les mineurs, ils ont eu des tas de choses, ils ont, c'est vrai, les congés du temps de mon papa, tout ça, ils ont lutté pour tout ça. Hein.
Parce que votre mari, il était mineur ?
Oui, oui, oui. Mon papa, mon frère, mon mari. Les mineurs, on avait notre demeure, on ne payait pas de loyer. Bon, après, moi, j'ai acheté ma maison, je n'ai plus le droit des maisons des mineurs. Mais on a quand même une petite somme tous les 3 mois pour la maison qu'on a laissée aux mines. Ça restait. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de mines, il n'y a plus... Mais, si. Ils ont bien lutté, ils étaient à Paris. Quand il y a eu grève, tout ça, ils ont été à Paris, tout. Hein.
En quelle année ?
Quand ma maman est décédée, en 61-62, il y a eu une grande grève, les mines, tout ça. Ils sont partis à Paris. Mon mari est à Paris.
Et vous, vous étiez ?
Non, moi non, ben, bon, j'avais mes enfants. Non, oui, oui. Enfin, la maladie qu'on dit, la silicose. Moi, mon mari, quand il était vers la mort, il faut dire ce qu'il est, on lui disait, ben, vous en avez, le docteur disait, mais qu'est-ce que vous en avez ? Mais on ne connaissait plus... Moi, je travaillais en service. Mais on disait, nous, on disait une bonne, on disait... Mais c'était comme ça. Hein. J'étais bien, j'ai fait des bons patrons. Après, mais j'ai fait comme Brigitte, hein, j'ai gardé des enfants de la DAS. Le papa, il a travaillé à Samsonite, hein, Brigitte. Oublie pas, hein, quand toilette, savon, serviette. Hein. Prends-en une quand même, hein. Ah. Moi, avec mon mari, j'étais à Menton, avec les mines. On payait moins cher, un peu moins cher. On partait 15 jours. Ben, Brigitte, elle est venue.
Et quand vous voyez Brigitte qui va partir, là, aux États-Unis...
Je suis fière d'elle, oui, je suis fière d'elle. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle part. Si, je suis contente, mon Dieu, qu'il lutte comme ça. Si même quand il est allé lutter là, à l'usine, j'ai été la voir.
Quand ils occupaient l'usine.
Voilà, quand ils occupaient l'usine. C'est-à-dire, ils ont vécu un peu comme ça, de lutter.
Je prends ma robe quand même en laine, on ne sait jamais.
Tu as pris du léger quand même un petit peu.
Bah, je n'ai pas pris grand-chose.
Mais... Alors, tu viens, tu ne t'en vas pas un mois.
Bah, je ne m'en vais pas un mois. Hein.
J'ai oublié mes chaussettes.
C'est vrai, ils ont du mérite, mais qui les fait honneur? Et je vais vous le dire ben vite, j'ai cette femme qui peint d'un 30 ans, elle s'est n'a ben occupée, quand le vel y prenne une cuite, le lendemain il est au farcé. Heureux chemin qu'elle les surveille, qu'elle y prépare au Saint-Boutelot. Elle femme à la huse pension aujourd'hui, elle l'a bien mérité. Elle peut s'arracher, car peindre à tous vie, elle l'a bien travaillé. Acheteur, j'y souhaite, à elle comme à lui, d'être bien profité. Je peux vous dire à la vache qui vont ben s'arposer, chassera tout dit dimanche pour chez deux pensionnés. Chaque jour chez tout le même ringuet, elle prépare au Saint-Caudron, car l'y pendant tout le semaine, hissard la voix maison. Cafetière, arrête au suche-feu, l'apéro chez tôt le goûter de jus, et seule joie à les savons, quand à l'île à Saint-Dos, et tins un tin de chot garnoul, à l'y fais au décatoul, elle femme à la huse, pension aujourd'hui, à la bain méritée. Elle peut s'arrêcher, car pendant tous vie, elle l'a bien travaillé. Acheteur, j'y souhaite, à elle, comme à lui, et de bien profiter. Je peux vous dire à la vache, qui vont bien s'arposer. Chassera tout dit dimanche, pour chez le pensionné. Passera tout dimanche pour chez le pensionné.
Que
sont
son vêtement.
Et là, tu vois bien que c'est rec.
Ouais.
Et là, t'as le petit voyant qui est rouge et qui clignote ça... pas. Donc là, ça enregistre.
D'accord, ça enregistre.
Alors, il faut bien que tu le rapproches de ta bouche. Voilà.
Bonjour Anaël.
Bonjour.
Comment tu vas?
Bonjour Brigitte. Ah, est-ce que tu as fait ta valise, Brigitte?
Non.
Voilà, ça c'est la formation.
Ah, il est 22h.
Des reporters. Ça okay. Se passe comme ça. Vous appuyez sur REC, vous enregistrez, vous approchez trop près de votre bouche. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Anaël a donné un petit enregistreur à Brigitte. Et voilà, c'est parti en lui demandant de temps en temps d'enregistrer des messages, ce qu'elle ressentait, où elle en était. D'essayer d'interviewer les autres ouvrières au cours de ce voyage en Amérique. 14 sur 205, donc, de ces anciennes ouvrières sont parties avec un magnéto en poche.
Et c'est parti.
Donc, Madame Poncheux, qu'est-ce que vous en pensez de votre voyage aux États-Unis?
Ben, j'en pense très bien parce que bon, on y va pour une bonne cause. Bon, on s'en va pour soutenir une entreprise, plusieurs salariés.
qui ont été licenciés par Bain Capital. On atterrit à Chicago. De Chicago, on va à Freeport. Et puis de Freeport, ensuite, c'est New York. Et ensuite, ce sera le 15 pour porter plainte à Boston.
Et pour l'avion, Madame Ponthieu, comment vous ressentez ça?
Bah alors là, franchement, rien qu'avoir un avion, je suis pas bien du tout.
On va vous donner 3 gouttes, Madame Ponthieu.
Bon, ben, nous voici ici sur le site donc de Freeport où les gens occupent. Donc, ils n'occupent pas dans leur site ni sur le bord du site, donc carrément de l'autre côté, car s'ils occupent ou s'ils essayent de bloquer un camion, ils se retrouvent directement en prison. Donc, pour pouvoir tout au moins bloquer un camion, il faut que ce soit des gens extérieurs à l'usine. Sinon, soit ils sont licenciés sur le champ ou alors ils sont en prison. Donc, effectivement, ils ont une lutte beaucoup plus importante que nous, car beaucoup plus difficile. Les lois américaines ne sont pas nos lois à nous. Et nous, étant licenciés, nous avons pu au moins occuper 6 mois. Donc voilà, ils sont heureux de nous voir arriver pour les soutenir. Merci, à tout à l'heure.
Occupation de l'usine Sensata à Freeport, dans l'Illinois, octobre 2012.
Last day was last Friday when they closed the plant.
Le dernier jour, c'était vendredi quand l'usine a fermé.
Workers in this country are getting a raw deal.
Les travailleurs dans ce pays sont traités de façon injuste.
This is the bait. Economy.
Voilà l'économie selon Bain.
All he knows is shipping.
Tout ce qu'il sait faire, c'est envoyer les emplois en Chine.
And America can't go on like that.
Et l'Amérique ne peut pas continuer ainsi.
Nous sommes très heureux d'être ici et soutenir le combat pour garder cette usine ouverte et sauver les emplois ici à Freeport. Et nous voulons que le management de Sensata entende bien qu'il soit ici à Freeport ou dans le Massachusetts. Vous ne pourrez pas nous intimider. Ici, c'est notre ville, c'est chez nous. Tous avec moi. Sauvez nos jobs, gardez l'usine ouverte.
Oui, ben, Anaëlle, comme tu peux m'entendre, nous sommes aujourd'hui dimanche, donc nous sommes dans l'avion qui part pour New York. Nous avons une navette à prendre entre deux. Nous passons un bon séjour, très émouvant et en même temps un peu inquiétant à chaque fois que nous passons pour nos passeports, pour les places. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc à chaque fois, on nous fait mettre sur les côtés et tout. Donc tu vois, c'est vraiment l'aventure.
Voilà, manif franco-américaine contre Bain Capital. Les voix de la contestation se mêlent courageusement. C'est la résistance, c'est la lutte. Et c'est le voyage, c'est les échos de ce voyage par ces ouvrières qui sont allées là-bas rencontrer, vous avez compris, les travailleurs américains en lutte à travers leurs syndicats, des conditions beaucoup plus répressives que chez nous, et qui étaient là, faut-il le rappeler encore une fois, pour aller à Boston porter plainte contre Bain Capital avec leur avocat Fyodor Rylov.
Maître Fyodorilov, bonjour.
Bonjour. On attend 11 heures pour nous rassembler avec beaucoup d'autres salariés américains qui viennent de tout le pays devant le siège new-yorkais de Bain Capital pour accueillir un bus qui traverse le pays depuis quasiment 3 mois. Il s'appelle le Bain Bus et à l'intérieur duquel il y a tour à tour, selon les états traversés, les salariés qui viennent d'entreprises qui sont soit déjà fermées, et donc les salariés licenciés, soit d'entreprises dans lesquelles les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et ce que veulent montrer les organisateurs de ce rassemblement aujourd'hui, c'est que Bain Capital procède soit à la fermeture des entreprises aux États-Unis où l'emploi est convenable, donc les salaires relativement élevés, pour délocaliser l'activité, notamment en Chine, soit conserve les entreprises, mais pour y dégrader les conditions de travail de manière absolument scandaleuse. Et alors, ils sont absolument incroyablement surpris de la participation des salariés français qui viennent leur montrer qu'on a aussi la possibilité de prendre Bain Capital de front.
Et après, vous allez à Boston ?
Demain, effectivement, nous allons à Boston pour déposer l'argumentation nouvelle que nous avons confectionnée devant le juge américain, devant le tribunal avec l'ensemble des ouvrières qui sont avec nous à New York.
Hi! My name is Shimada Martinez. I'm actually from Boston, Massachusetts.
Je m'appelle Shimada Martinez. Je suis de Boston, Massachusetts.
We're definitely going around trying to expose the Bain economy because it's really important. Right now, this man is running for president, the guy who founded the company.
Mais là, on est vraiment en train de faire un tour pour essayer de montrer ce que fait l'économie et de ce que fait la compagnie Bain, quand même, qui a été fondée par celui qui veut devenir le président des États-Unis.
Alors, vous avez rencontré ces femmes françaises qui sont venues de France pour manifester avec vous devant le siège de Bain Capital?
Oh, yes, we're definitely seeing them. They're very nice people, and it's good to know that.
C'est très bien, on est très content de les rencontrer et on trouve qu'elles sont vraiment adorables et c'est toujours bien de voir qu'il y a des gens qui soutiennent ce mouvement.
It makes me feel like I'm not the only one, I'm not alone, and I know this is going on across America and now I know it's going on internationally too.
Et moi ça me rassure beaucoup parce que je vois que je suis pas seul, qu'on n'est pas tout seul, que ça se passe à travers tous les États-Unis et aussi dans les autres pays.
Vous travaillez où ?
I actually work for three different Dunkin' Donuts, and it got worse each time.
Et je travaille pour Dunkin' Donuts, une grande chaîne qui fait des donuts et des cafés, et la situation est de pire en pire.
It required a lot of, you know, working hard and staying at minimum wage, and this is not fair because we're the ones that are making him rich.
Et nous, on est obligés de travailler très dur avec un salaire minimum et c'est parfaitement injuste parce que c'est grâce à nous qu'il s'enrichit.
Parce que Bain Capital est propriétaire de Dunkin' Donuts?
Yes, it is. He made a lot of money off of Dunkin' Donuts and all these other companies like Staples, Toys R Us.
Dunkin' Donuts, comme beaucoup d'autres compagnies, comme Staples, comme Toys R Us, de magasins de jouets, tout ça appartient à Bain Capital et ils en tirent beaucoup d'argent.
Yeah, and all these employees are going through the same thing. So, you know, we definitely have a mutual understanding, even though we work in different stores at different companies, everybody is going through the same thing.
Même si on a différents boulots, qu'on travaille pour différentes compagnies qui appartiennent tous au même groupe, les travailleurs, on peut se comprendre les uns les autres parce qu'en fait, on a tous les mêmes conditions de travail.
I mean, we definitely, you know, deserve, if we work hard, we definitely deserve to have some downtime with our family and have that bonding time. And that's not something we get to do. We work extra hard for nothing, you know, while Mitt Romney's sitting on his butt and getting rich off of us.
Oui, on bosse vraiment très dur et vraiment pour des clopinettes. Et c'est au profit de Romney et de Bain Capital. Thank you very much.
Okay.
And keep on the fight.
All right, you're welcome.
Take
and
care.
Have a good one.
Bye-bye.
All right, thank you so much. Bye-bye.
Would you have freedom from wage slavery? Then come join the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Come on, do your share, lend a hand.
Of gold in the sky and live in a shack way in the back. Would you have wings up in heaven to fly and stay here with rags on your back?
There is power in a man of working folks when they stand.
Alors nous voilà à nouveau dans le nord, à Rouvroy. Rouvroy, c'est une commune qui est tout près d'Hénin-Beaumont, pas très loin d'Avion, où habite Brigitte. Et on est là, avec les Samsonites, devant la salle des fêtes, pour fêter le voyage aux États-Unis des Samsonites.
Bonjour.
Ça va.
Vous avez vu Obama?
Non.
Oh, oh, il nous a pas invités à la Maison Blanche.
Oh, dommage.
Ah, tu n'as pas vu?
Qu'est-ce que vous faites là?
On va s'amuser. Hein.
On va s'amuser. Hein. Vous affichez des photos?
On a voulu faire des encoches.
Dans une toile cirée rouge.
Ah oui, c'est vrai.
Comment vous appelez déjà?
Moi, Pascal Navrot.
Pascal. Et est-ce que vous pourriez nous décrire la photo là que vous êtes en train d'afficher?
Alors là, nous voyons l'aéroport de Paris, qu'on était. Là, l'intérieur de l'avion. Là, c'est là, on touchait terre en Amérique. Là, on arrive à l'aéroport.
Aux États-Unis, de Chicago.
Et là, nous avons la photo du premier hôtel que nous sommes allés. Oui, c'est tout en briques rouges.
Là, c'est New York. C'est alors, la manifestation devant Ben Capital.
Ça, c'est une mascotte de Ben Capital. C'est un monstre qui représente Ben Capital, qui est costaud, plein de sous et tout. Et une autre personne qui est derrière, qui le poursuit. C'est un genre de sketch.
Alors, mais du coup, là, on ne voit pas très bien Ben Capital. C'est comment?
Non, c'est une grosse entrée. Attends, c'est là derrière, mais c'est immense. C'est un immeuble immense. Alors, des gorilles tout le long, parce que tu ne peux pas y rentrer comme tu pourrais pas y rentrer. Et en face, là, par exemple, c'est Dior, tout ça. C'est tous des grands immeubles de richesse, quoi. Et partout, il y a des personnes qui sont là à surveiller les entrées et venues. C'était vraiment un quartier très, très riche où même lorsque vous êtes sur le trottoir et qu'il y a une personne aisée qui passe, ça à peine si elle vous insulte pas. Il y a eu des personnes qui ont été apparemment assez chaudes sur le point de vue qu'on était là en train de manifester. Mais pourtant, ils peuvent passer puisqu'on n'a pas le droit d'interdire le passage.
Ça ne vous tient pas, Francis ? Pourquoi
demander à la personne ? Il y en avait d'autres. Hein. Là, on ne peut pas tout accrocher, malheureusement. Je pensais, m'attendais pas à ça. C'était mon premier voyage, moi. Je vais essayer d'apprendre un petit peu l'anglais pour essayer de voir si je peux continuer à savoir où ça en est arrivé, s'ils arrivent avec quelque chose. Ils étaient contents tellement de nous voir, ils nous attrapaient par notre cou. On a fait des échanges. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
S'il vous plaît, on écoute.
Tu veux introduire un peu ou pas?
Brigitte. Bon, ça y est. Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Ben voilà, on est bien revenus. Hein. Ils nous ont pas gardés.
Par rapport à Ben Capital.
Alors là, Fyodor Rylov est en train de s'adresser donc aux Samsonites. Une bonne cinquantaine de personnes qui sont là, assises dans cette salle des fêtes à Rouvroy, et qui écoutent attentivement leur avocat.
On n'est plus juste des silhouettes de l'autre côté de l'Atlantique là, qui agitent une espèce de fanion là, en disant « attention, on va arriver ». Attention, on va arriver, mais on ne vous voit toujours pas venir. Sauf que là, si, ils nous ont vu venir. Et ça crée une situation qui est complètement nouvelle et que tout le monde devra prendre en considération, y compris le juge. Moi, j'ai la conviction que nos chances de succès dans cette action à Boston sont beaucoup plus élevées qu'elles ne l'étaient avant le déplacement.
On a voyagé 4 jours.
Mais on sait vivre en Amérique maintenant.
Tu m'as mis de la route et pendant.
Et là, c'est un truc de fou aussi. Donc vous devez être derrière les barrières. Vous n'avez pas le droit d'être devant les barrières. Et lorsque vous prenez la parole pour leur parler, bon, moi, il y avait quelqu'un qui traduisait. Ben, vous avez tout le temps la police qui est là, tout prêt à vous bousculer. Puis il y a un moment, j'étais prête à dire, ben, allez, prenez-moi, foutez-moi la paix. Et puis pour nous sortir de prison, c'était $250. Mais bon, ça n'empêche que je n'ai pas été derrière, j'ai continué à dire ce que j'avais à dire. Que ce soit New York ou Freeport, on a été attendu vraiment.
Chaque personne arrivait avec un plat chaud, froid, dessert. Et ça finissait par nous avoir fait un super beau buffet. Ils nous attendaient. Ouais, c'est franchement.
Qu'est-ce qu'il y avait à manger alors?
Ah, de tout.
Des potages.
Des lasagnes, des potages.
Des entrées.
C'était les ouvriers américains qui vous avaient prévu ça pour votre arrivée?
Les ouvriers, la famille, les gens du village qui venaient les supporter en même temps. Et en même temps, ils nous attendaient aussi. Donc,
S'il vous plaît, Bernard va dire un petit mot.
Le trésorier Bernard.
Je voudrais d'abord qu'on ait une pensée pour Delphine, qui est à Wani maintenant. Là, j'ai eu des nouvelles ce soir. Elle a pu rentrer chez sa mère pour le week-end. Elle a toujours son moral, mais par moments, elle a du mal de parler, quoi. Suite à l'appel radio extérieur, on a eu 66 promesses de dons, dont 54 dons qui ont été virés, dont un don de 1000 euros et un don de 500 euros. Ce qui nous fait pour un total de 4220 euros.
Merci à Naël et l'équipe de France Inter. Et les auditeurs, oui, surtout, oui.
Voilà, bah oui, et c'est vous les 4220 euros, 54 auditeurs de là-bas si j'y suis, qui ont contribué à ce voyage. Merci à tous, c'était un reportage d'Anaël Verzo. Monsieur le Président, combien de nouveaux chômeurs aujourd'hui? Merci à Brigitte, Petit, Bruno et Monique, René Pontieux, Roselyne et Valérie, ainsi qu'à toutes les anciennes ouvrières de Samsonite. Merci à Fyodor Rilov et à tous les auditeurs de la base si j'y suis. Sur l'histoire de cette lutte, il y a une documentariste qui suit ça très attentivement et qui a déjà sorti un film sur l'histoire des Samsonites. C'est Hélène Desplanques et son film s'intitule Liquidation totale et nous la remercions. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org et faire des commentaires. Et puis il y a la page Facebook de l'émission. Derrière moi, vous entendez les salariés, ouvriers français et américains qui manifestent. À la technique aujourd'hui, Jonathan Gauthierot et Michel Bézikian et Éric Morin. Ils sont trois aujourd'hui, rien que ça. Et l'émission a été réalisée par Lucia Kuhn et Chloé Sanchez, préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dubac, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. Voilà, et puis je vous rappelle les repères de la base si j'y suis. Ça marche toujours, les repères de la base si j'y suis. Vous connaissez le principe, il me reste quelques secondes pour vous le rappeler. Vous habitez dans un village, dans un quartier, en vous disant « Ah, il y a peut-être d'autres personnes dans le coin qui écoutent la base si j'y suis, qui écoutent France Inter. Ce serait peut-être intéressant ou amusant de les rencontrer. On a peut-être des choses à se dire. » Dans ce cas-là, vous trouvez un bistrot sympa, ouvert à tous, le café des sports, le bistrot du coin, le café de la poste, vous vous arrangez avec le patron, puis vous dites ben voilà, on voudrait organiser une petite rencontre à quelques-uns de temps en temps. Oui, dit le patron qui est pas bête parce qu'il a le sens des affaires. Et vous joignez sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Il dit voilà, je veux devenir le correspondant du repère de tel endroit. Et ben d'accord, pourquoi pas. Et voilà, et vous organisez votre repère, vous vous retrouvez tous les mois, toutes les semaines, tous les deux mois, comme vous voulez, pour parler de tout, mais pas de rien. C'est le système des repères de là-bas si j'y suis. C'est le moment tant attendu de la réclame.
Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Un jeune sur quatre est au chômage. L'heure n'est plus au constat, il est urgent d'agir. La Fondation Apprenti d'Auteuil soutient les jeunes et leurs familles pour les aider à reprendre confiance, à se reconstruire et trouver leur place dans la société. Ensemble, Mobilisons-nous pour la jeunesse en difficulté sur apprenti-auteuil.org. France Inter présente Ernest et Célestine sur un scénario de Daniel Pénac avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner. Actuellement au cinéma.
Un ours et une souris, ça va pas.
Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça?
Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça.
Ernest et Célestine, une fable moderne et poétique où l'amitié l'emporte sur les préjugés et les différences. Retrouvez Ernest et Célestine, un film d'animation de Benjamin Reiner, Vincent Patard et Stéphane Aubier dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Dans quelques secondes, il va être 16h sur France Inter. Je vous laisserai pour les informations avec Nicolas Théillard. On se retrouve demain à 15h pour la Bas si j'y suis. Salut.
L'atmosphère s'annonçait glaciale, elle est même délétère. 30 minutes à peine après l'ouverture des débats, FO et la CGT ont claqué la porte du CCE extraordinaire d'ArcelorMittal réuni cet après-midi à Paris. Des syndicats ulcérés par la situation et qui rejettent catégoriquement l'accord passé le 30 novembre dernier entre le gouvernement et le groupe sidérurgiste. Écoutez la colère de Norbert Sima, représentant des salariés pour le syndicat FO.
Rester et discuter d'un accord qu'on n'a pas signé et qu'on conteste, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'en veut pas. Pour nous, on a commencé il y a 18 mois de ça avec nos revendications et on devrait partir maintenant se coucher pour moins que ce qu'on avait réclamé au départ. C'est impossible. C'est impossible. On ne va pas refaire ce qui a été, ou pire même, que ce qui a été fait à Gondrange. On ne va pas trahir maintenant les salariés de Florange. Pour nous, c'est faux, c'est impossible et ce ne sera pas fait. Tout est un tissu de mensonges. On ne peut pas résumer 18 mois de lutte avec un feuillet de 2 pages. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui est en train de se faire là, c'est pire qu'un plan social. Un plan social, on l'aurait négocié. Il n'y a rien à négocier. On ne nous demande même pas notre avis, on nous informe. 18 mois de lutte pour nous informer sur une décision entre une partie du gouvernement et la direction. Ce n'est pas possible.
Des propos recueillis par Manuel Ruffez, la CGT de son côté dénonce un accord qui ne répond pas aux intérêts des salariés de Florange ni à ceux de l'ensemble du groupe. Autre CCE sous tension, ce matin chez Alcatel-Lucent, près de 500 salariés ont manifesté à Lannion où syndicats et direction se retrouvaient pour discuter du plan de sauvegarde de l'emploi. Le groupe prévoit plus de 1300 suppressions de postes en France, dont 139 sur le site de Lannion. 9 milliards d'euros de plus dans la facture du Grand Paris Express, c'est ce qui ressort du rapport remis aujourd'hui à Cécile Duflo sur le projet de super métro francilien. Avec cette hausse brutale, le montant total du projet dépasserait les 30 milliards d'euros et le rapport semble préconiser un report de la livraison de la ligne. Hypothèse qui suscite la colère des élus de Seine-Saint-Denis notamment, où de nombreuses communes misent sur cette ligne pour se désenclaver et attirer des entreprises. À l'étranger, le régime syrien proche de l'effondrement, selon le secrétaire général de l'OTAN. Ce n'est qu'une question de temps, ajoute Anders Rasmussen, dont la déclaration intervient quelques heures seulement après celle du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, qui a estimé que le régime syrien perdait de plus en plus le contrôle du pays. Un signal fort alors que Moscou est l'un des derniers soutiens de Bachar al-Assad. Le dernier sommet européen de l'année 2012 s'ouvrira ce soir à Bruxelles, ultime rendez-vous qui s'est ouvert, une fois n'est pas coutume, sous des auspices favorables. Tôt ce matin, les 27 sont parvenus à un accord sur la supervision des banques de la zone euro, un mécanisme qui marque surtout une étape de plus vers l'union bancaire. Et puis quelques heures plus tard, le déblocage d'une aide de 34 milliards d'euros à la Grèce a été adopté. Le versement se fera dès la semaine prochaine au grand soulagement d'Athènes. Enfin, Marion Cotillard, nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice, déjà récompensée par un Oscar en 2008 pour son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme. Elle est retenue cette fois pour son rôle dans le dernier film de Jacques Audiard, De Rouille et d'Os, la cérémonie des Golden Globes qui fait figure d'antichambre des Oscars aux États-Unis.
Tous les dimanches à partir de midi, en direct et en public du studio 109, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, un regard en contre-champ, celui de Francis Poujon, sans domicile fixe. La foule passe devant lui, assis sur le trottoir sans le voir, mais lui regarde la foule. Que dit-il de ce que nous sommes et de ce qu'il voit ?
Pour assister à l'émission, rendez-vous dimanche à 11h30 devant la porte B de la Maison de Radio France.
À dimanche.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Excellent après-midi à l'écoute d'Inter, 16h04 à l'horloge. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Nicolas Taillard. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Hier, je vous ai annoncé deux concerts, un gratuit sous la pyramide du Louvre. Ça tient toujours, rassurez-vous, bien sûr, dirigé par Pierre Boulez, et le lendemain, salle Pleyel. Mais Pierre Boulez, j'avais dit qu'on avait quelques inquiétudes à son sujet. Ben voilà, il a annulé parce qu'il a des problèmes ophtalmologiques. Et donc, les concerts tiennent toujours, aussi bien sous la pyramide du Louvre mardi, et c'est toujours gratuit, bien sûr. Et puis à Pleyel, ça n'est pas gratuit, mais ce sera très beau aussi, avec Nora Goubich, mezzo-soprano. Donc, mercredi 19, 20h dans les deux cas. Ce sera Mikko Franck, chef très connu, chef finlandais, qui va remplacer le maître Pierre Boulez, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Mais elle est bien là, un tout petit peu enrhumée, mais en pleine forme quand même. Sophie Janin, bonjour Sophie.
Bonjour.
Donc directrice musicale de la maîtrise de Radio France, et c'est magnifique le travail que vous faites, et chef d'orchestre, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes ici, principalement parce que vous allez diriger un concert. Il y aura aussi évidemment les membres de la maîtrise, mais enfin c'est l'orchestre national que vous allez mener au Triomphe, on en est sûr, mardi 18, en concurrence avec la pyramide du Louvre, mais enfin bon, voilà, je dis à tout le monde, il faut y aller, ça va être formidable, c'est un concert de Noël extraordinaire, à 20h au Cirque d'Hiver, c'est 110 rue Amelot dans le 11e, le titre de ce gala de Noël, c'est De Vienne à Broadway. Alors voilà, c'est une passion, vous avez déjà dirigé les orchestres, notamment l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2010, vous dirigez le Stockholm Concert Orchestra aussi. Eh bien, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Les enfants, c'est merveilleux, ces petites voix tellement charmantes.
Oui, les enfants, ça c'est vrai que c'est merveilleux. Après, j'ai une formation qui était à la fois une formation de direction d'orchestre et de direction de chœur. Mmh. Donc je viens d'une école où le fondement, on va dire, de la direction n'était pas si séparé que ça.
Ah, mais tant mieux d'ailleurs, c'est plus logique finalement. Hein. Alors, est-ce que vous dirigez forcément, quand on dirige des voix, on dirige à main nue en principe, et puis quelquefois, quand on dirige les instruments, on dirige avec une baguette. Alors, avec ou sans vous?
Avec.
Avec,
ah bon, ouais. Oui, pour moi, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans la salle en principe, et quand il faut, il y a un temps grand, limité de répétition, c'est grand, oui, un grand espace, beaucoup de personnes, beaucoup de détails, et là, je trouve que ça a toujours été un outil que j'ai trouvé utile et j'ai été formée dans...
C'est une visibilité.
Hein. Tout à fait.
Mais très grande. Alors dans ce programme, il y a plein de choses. J'ai dit De Vienne à Broadway. Donc ça va commencer par l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein. Autant écouter le maître lui-même, après tout. Hein. Ouverture de Candide, Candide inspiré d'un roman français, de Voltaire bien sûr, mais la musique est de Leonard Bernstein. Nous avons entendu le maître diriger le Los Angeles Philharmonic. Alors ça évidemment, Sophie Janin, c'est une ouverture tellement brillante, on a